France Maghreb 2. France Maghreb 2. David Desclos, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Quel parcours, David Desclos. Quel parcours. Ce livre, ouais. Histoire vraie, pour le coup, il n'y a pas besoin d'en rajouter, puisque tout est écrit dans ce livre. Il n'y a vraiment pas d'exagération dans ce livre. C'est votre vie, votre parcours, qui a commencé très jeune, avec une maman d'ailleurs qui est très présente dans votre livre. On sent que vous avez quand même envie particulièrement de lui rendre hommage.
Oui, ma mère était très très présente et c'est vrai qu'il y a un grand hommage.
Le pilier de la famille, quoi.
Le pilier et puis surtout, voilà, je voulais donner une explication à beaucoup de personnes qui quand ils lisent les faits divers, ils se disent mais qu'ont fait les parents, ils pensent que voilà les parents n'ont rien fait et tout et donc bien sûr il y en a aussi, il y en a qui ont été, ils n'avaient pas de parents et tout, mais il ne s'agit je donne une explication dans le livre les parents ne peuvent pas faire grand chose quand la misère est là, elle est là quoi, et quand j'ai voulu donner une explication et rendre hommage aussi à ma mère et aussi aux éducateurs, aux professeurs, à tous ceux qui bossent dans les cités et tout et qui des fois ont envie de baisser les bras. Donc voilà, plus qu'un livre, pour moi, c'est une explication. Et j'espère que toutes ces personnes, j'ai une pensée pour les personnes qui lisent les faits divers et qui disent comment ils en sont arrivés là, comment ils peuvent faire tout ça dans les cités, quoi. C'est pas possible et tout, et qui comprennent pas, quoi. Donc je demande pas qu'on cautionne, mais au moins il y a une explication.
Votre papa, qui a eu un parcours assez tumultueux, on peut le dire, hein, il a passé plusieurs fois par la case prison. Il était, on peut le dire, alcoolique.
Ouais.
Voilà. D'ailleurs, tout l'argent de la famille partait dans l'alcool et le tabac. Vous le répétez assez souvent. D'ailleurs, vous auriez préféré que lors des repas de famille ou des réunions entre amis, il y ait plus des jus de fruits, de l'eau et du fruit. Peut-être que ça aurait épargné quelques membres de votre famille. Tout l'argent de la famille partait là-dedans, quoi.
Ouais, le peu d'argent qu'on avait, parce que là,
il partait dans l'alcool et le tabac.
On avait les allocations, pas que. Il y avait aussi dans les dettes. C'est ce que je dis dans le livre, dans le loyer. Les retards de loyer, l'électricité, toutes les charges et tout.
Il y a cette phrase à un moment dans le livre qui est extraordinaire. Vous dites, il y a mon père avec ses frères et ses amis qui sont attablés en train de siphonner les bouteilles de vin alors que les femmes sont occupées à essayer de savoir et de comprendre comment ils vont justement mettre fin à ces difficultés et de pouvoir trouver suffisamment d'argent pour manger.
Oui. Ouais, c'est ça. J'essaye de décrire un peu les conditions, quoi, et sans leur jeter la pierre à nos pères, parce que ils étaient comme des drogués, quoi, et qui vend l'alcool. Je pose la question, c'est l'État qui gère, mais ils les rendent accros. Il faut le dire, ils sont accros à l'alcool et ils peuvent pas s'en sortir. Ils sont dépendants, c'est une dépendance comme des toxicos, quoi, et du tabac aussi. Et puis, comme je l'ai dit tout de suite, les charges et tout s'accumule, donc on se retrouve avec rien, le frigo vide, les huissiers qui rentrent pour enlever les meubles, le peu de meubles qu'on a.
Le déménagement était assez facile puisque vous restez pas grand chose comme meubles, finalement.
Voilà, c'est ça.
On était remplacé par de beaux meubles par la suite.
Oui, mais par la suite, une fois qu'on a su se débrouiller, on s'est dit, puisque ça avance pas, fallait bien qu'on. Voilà, on nous disait d'apprendre à l'école, mais avant de vouloir apprendre à l'école, fallait surtout apprendre à se débrouiller, apprendre à manger. C'était. Ils nous parlaient du futur, mais nous, le futur, c'était aujourd'hui, demain.
C'est abstrait.
C'était là. C'était de savoir qu'est-ce qu'on allait manger le jour même ou le lendemain et comment s'habiller et tout ça.
Le livre s'appelle Une histoire vraie chez Flammarion, hein, David Desclos. Et il y a un spectacle, mais avant de parler du spectacle, quand même, il faut aussi quand même parler de votre parcours atypique. Le fait d'avoir braqué cette banque en 99, c'est ça ?
98.
98.
Et si je peux me permettre, je reprends toujours parce que c'est important pour moi. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire braquer parce que c'est dans le langage courant. Mais moi, j'insiste pour dire c'est cambrioler. Les braquages, c'était avec armes et nous, on cambriolait sans armes et sans violence. On neutralisait les systèmes d'alarme. On rentrait dans la banque la nuit sans qu'il y ait personne et avec des chalumeaux
non,
découpeurs.
Mais vous avez
on
creusé un tunnel.
En creusant
un
tunnel.
Oui, voilà. En 1998, pendant 4 mois, avec mes amis, on a creusé un tunnel pendant 4 mois. On a voulu cambrioler le siège social de la Société Générale à Caen dans le Calvados. On est arrivé au mur de la banque. On est arrivé dans la salle des coffres. Et ensuite on s'est fait attraper. pour une petite erreur de notre part.
Changer le système d'alarme.
Voilà, que je dis dans le spectacle, j'explique dans le spectacle pourquoi. Et surtout, ben, ils m'ont comparé à Spadjari, le célèbre gangster des années 70. Et voilà. Et donc, dans la voiture, pendant qu'ils m'ont transféré d'un commissariat à un autre, ils me comparaient à Spadjari. Il me dit, et puis un policier, en rigolant, en se foutant de moi, il me dit, t'as plus qu'à faire comme Spadjari. Il a mis 4 mois, lui, pour s'évader.
Ouais.
Et c'est 5 minutes plus tard, j'étais évadé.
Vous n'avez pas mis 4 mois, 5 minutes.
5 minutes plus tard, j'étais évadé. Donc, il a passé son. C'était le jour de Noël, le 24 décembre 1998, à 10h du matin. Et ben, il a passé son réveillon de Noël à me chercher. Et moi, j'ai fait un an de cavale. Pendant un an de cavale, j'ai baroudé et tout.
Comment bascule-t-on de la délinquance au grand banditisme ?
En fait, c'est une escalade qui se fait, moi, pour moi, hein, qui s'est fait comme une logique, quoi. On commence par le vol à l'étalage, ensuite le vol en filouterie, c'est-à-dire qu'on rentrait dans les magasins, les moyennes surfaces, on rentrait dans les bureaux.
Faisiez des concours d'ailleurs.
Voilà, on faisait même des concours à celui qui était le meilleur.
Ouais.
Et je me suis aperçu que je faisais partie des meilleurs. Voilà, peut-être mon physique m'aidait aussi. J'étais blond, yeux bleus, j'étais entouré de rebeux, de renois. Et donc, bah, eux, ils faisaient les diversions parce que, voilà, c'est connu, hein, tout le monde pense que c'est les rebeux, les renois. Les pires, alors que non, c'est pas les pires. Donc on s'entraidait entre nous, on savait faire des diversions. Moi, je rentrais dans les bureaux, porte privée, je cherchais la clé du coffre pendant que les gens faisaient leurs courses. Et là, on dévalisait les coffres forts sans armes et sans violence.
Vous avez évalué votre bulletin ?
En tout, sur toutes ces années, non, c'est impossible. Mais c'est vrai que c'est une question, parce que le spectacle dans les prisons, dans les écoles, il est suivi de débats, et c'est une question qui revient souvent. Et je dis toujours que c'est vrai qu'on a pris des belles sommes. Par exemple, on a pris une fois dans une banque 500 000 euros, une autre fois 300 et quelques mille euros, une autre fois 100 et quelques mille, plus plein d'autres sommes. Mais je dis toujours que ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent facile, on dit l'argent facile, mais elle est très dure, mais voilà, on l'apprend, mais elle s'envole si vite, elle brûle les doigts. Donc c'est dur à entendre pour des personnes qui travaillent toute l'année, qui se lèvent le matin, qui travaillent pour une paye et tout. C'est très dur à entendre ce que je suis en train de dire, et ça, je le sais maintenant que je travaille. Donc, mais il faut le dire à tous ces jeunes qui pensent qu'on va faire beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on va faire plein d'argent, mais quand on se fait attraper, parce que comme 2 et 2 font 4, on se fait attraper, et ben tout s'écroule comme un château de cartes, et l'argent, ben, elle part en fumée dans les avocats, dans les frais de justice, dans les.
Vous saviez que ça allait terminer comme ça, David Desclos?
Oui, je le savais. Sur le coup, on sait pas, on pense qu'on va être plus
malin. Il y a l'adrénaline qui entre en jeu aussi quand on s'apprête à commettre un ce que vous n'appelez pas, vous, un braquage, mais un cambriolage.
Ouais. Oui, il y a l'adrénaline. C'est énorme, l'adrénaline qu'on a. Et surtout, bah, on pense qu'on est bon qu'à ça. On fonce à 100 à l'heure dans ce truc-là. Et je le dis, moi, dans les prisons, les écoles, partout où je vais en ce moment, je leur dis, quand en fait, on gâche notre culot, notre talent et notre intelligence là-dedans, alors qu'il y a vraiment dans les cités une force vive d'intelligence. Et si on met ce culot, cette intelligence et ce talent dans l'honnêteté, eh ben on va tout déchirer. Parce que vraiment, un vieux bagnard m'a dit un jour, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnête, t'auras tout compris. Et ce bagnard avait vraiment raison, et c'est ce message que je vais maintenant
Oui, mais c'est facile de dire ça après votre parcours quand même, non ?
Non, c'est pas facile de le dire, parce que j'aurais pu continuer à, comme d'autres, à penser tout le temps que j'étais bon qu'à ça et continuer sur cette mauvaise route.
Redouane Faïd a fait aussi la même démarche que vous, sauf que lui, il a trompé tout le monde derrière.
Je sais que je suis attendu au tournant, je le sais très très bien. Je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. J'en suis conscient, par exemple, quand je sors le soir avec ma femme, et que si un jour je tombe sur
Nora.
Quelqu'un, ouais, Nora,
c'est peut-être quand même la seule chose positive que vous avez réussi à bien gérer, votre histoire d'amour.
Oui, ouais, c'est l'une des grandes choses positives.
Bien sûr, avec votre spectacle,
pour moi, et je lui rends hommage.
Elle a été patiente.
Voilà, je rends hommage à ma femme à travers elle. Je rends hommage parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent leur mari, les détenus et tout. Donc, je rends un grand hommage à ma femme. Et voilà, je sais qu'il y a plein de femmes qui attendent leur mari, et des mamans qui attendent leur fils et tout ça. Donc c'est un grand message d'espoir, parce qu'elle m'a attendu une première fois 5 ans, une deuxième 2 ans, une troisième fois 1 an. Et donc c'est un grand hommage que je rends, hein, j'envoie ce message en disant que rien n'est jamais foutu, on n'est pas irrécupérable, et quand voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Et je sais, comme tu viens de le dire, je suis attendu au tournant. Je sais, comme Redouane Faïd, voilà, à la moindre erreur, ça me sera fatal, quoi. Donc
spectacle, parlons-en. Alors parlons-en juste avant de parler du spectacle quand même. Ouais. La case prison. Quand on est en prison, David Desclos, on sait pourquoi on y est. Enfin, en général, hein, on va dire que voilà, il y a des gens aussi qui y sont, ils savent pas trop pourquoi, mais en général, on sait pourquoi on y est. En tout cas, vous le saviez. 10 ans de prison en tout et pour tout.
Ouais.
Ça, c'est votre parcours carcéral. Ça permet aujourd'hui, maintenant, de faire de la prévention et de dire. Ouais, bah la prison, c'est dur. La prison, c'est très dur. Les parloirs, de dénoncer un petit peu ces conditions carcérales. Et d'ailleurs, la France a été plusieurs fois pointée du doigt pour des conditions carcérales, condamnée même d'ailleurs. Quel est réellement l'état des prisons aujourd'hui en France, et en tout cas par lesquelles vous êtes passé, que vous avez connu?
Eh ben, ils sont déplorables, et je le dis dans le livre, par exemple. Je décris les cellules, les cachots. J'arrive encore plus à le décrire dans le livre, et je le décris encore aussi dans le spectacle. Je montre qu'en France, on n'a pas la morale à faire à des pays sous-développés, quoi. Dans un pays comme la France, pays des droits de l'homme, on a, même si dans certaines prisons il y a de l'amélioration, il y a eu des travaux de fait depuis ou quoi, mais il reste encore beaucoup de... et en plus des cellules détériorées, il y a surtout aussi la surpopulation pénale, et ça faut en parler. Les conditions de parloir, voilà, c'est un combat, parce que avant tout, déjà en priorité, les conditions de parloir, parce que nos familles n'ont rien fait, et donc c'est eux qui subissent aussi vraiment beaucoup. Et ensuite, la surpopulation, c'est inhumain de laisser dans un si petit périmètre 2, 3, 4, 5 individus, ouais, les uns sur les autres, quoi. Et puis surtout, bah, dans des cellules, des fois les carreaux sont cassés, pas de chauffage, la crasse, l'humidité, les cafards, les punaises, j'en passe. Mais si je peux me permettre quelque chose de très très important pour moi, que je dis à la fois dans le livre et dans le spectacle, c'est je n'oublie pas les victimes. Parce qu'on ne peut pas avoir ce discours à se plaindre, oui, sur les conditions de parloir et les conditions de détention si on laisse de côté les victimes. Et c'est ce que je fais à travers ce spectacle. Par exemple, là, on va le faire le 23 octobre dans le centre de détention d'Argentan. Ouais. On emmène 2 victimes avec nous et on fait le matin des ateliers avec les victimes et les détenus. C'est ce qu'on appelle en France la justice restaurative. Et donc, on amène les victimes avec nous. Ensuite, l'après-midi, je joue mon spectacle et pendant le débat, les victimes montent sur scène et s'expriment aussi face aux détenus. Et on ouvre le débat, hélas, on l'a déjà fait, et je vous assure que ce qui se passe, c'est magique. Les détenus prennent conscience de plein de choses, les victimes, ça leur fait du bien aussi, parce que voilà, ça leur permet d'avoir la parole. C'est les grands oubliés de la justice, les victimes. Et donc, je ne veux pas parler que d'un côté, il faut rassembler. Si on ne parle que d'un cas, eh bien, on va diviser. Les gens diront, oui, mais les victimes dans tout ça. Et donc, mon projet, il est vraiment de rassembler les deux. Et donc, dans le livre et dans le spectacle, j'explique tout ça.
David Desclos, clairement, ce qui vous a aidé à tenir, c'est ce spectacle. Vous l'avez conçu en prison.
Oui, je l'ai écrit en prison pendant mes nombreuses détentions. J'ai pas écrit que ça, j'ai spectacle,
pépites. Vous l'avez même
théâtre,
testé d'ailleurs auprès de vos co-détenus.
Et je l'ai testé, voilà. J'arrivais dans les promenades qui étaient glauques, on était 5 ou 10 dans une promenade, on se faisait chier, tout le monde me connaissait, me disait, David, vas-y, raconte-nous tes histoires. Je racontais mon évasion, ma cavale, et je faisais rire. Et là, plus je faisais rire, plus le bouche-à-oreille se faisait, ouais, la promenade se remplissait, et ils ont même écrit la promenade du Comedy Club. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'y mettre des messages, parce que je voyais des jeunes qui m'écoutaient, qui rigolaient, mais je les voyais à mon âge, et je me disais, si je peux leur faire gagner du temps en une heure de promenade, si je peux leur faire comprendre ce que j'ai compris en 20 ans. Et c'est là que en même temps, je leur envoyais des messages et on débattait et tout. Et je me suis dit, si je peux le faire en prison, je peux le faire aussi dehors, dans les collèges, les lycées, les écoles. Et c'est ce qu'on fait maintenant, et on revient dans les prisons le faire. On
Romy,
fait
de la c'est prévention. Fini David Desclos, tout ça, ce passé.
Ben voilà, je sais que si je le dis, y en a plein qui le croiront pas, parce que voilà, on est attendu. Moi je le sais et je dis et je vais le dire, Inch'Allah, oui, c'est fini. Et on n'est jamais à l'abri. Je vais raconter une petite histoire vite fait, ouais. Par exemple, mon petit frère qui a fait de la prison comme moi ou quoi, ouais, hein, il était rangé, il faisait un travail, il était nickel, moi, et un jour il tombe sur un con en centre-ville qui est venu l'agresser, mais vraiment l'agresser. Mon petit frère était aussi connu que moi, il s'est défendu, il s'est battu, voilà, il a tapé le mec, il l'a laissé sur le carreau. Mon petit frère s'est retrouvé en prison, et le juge qui l'avait laissé sortir avant, il lui a dit, bah alors vous voyez que vous êtes irrécupérable. Mon frère a essayé de se justifier. Voyez, en fait, c'est pour ça que je termine quand vous me dites, est-ce que c'est fini? Je dis oui, Inch'Allah. Et je ferai tout pour que ce soit fini. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri. Et avec mon casier et avec mon parcours, je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. Et donc, c'est pour ça que je dis Inch'Allah.
Vous connaissez tous Tommy Bugsy. Comment ça va, Tommy?
Ça va, les amis?
Ravi de t'accueillir, Tommy. Alors, d'abord, merci. Première question, comment s'est fait la rencontre avec David Desclos, Tommy Bugsy?
Bah, très simplement, on va dire que y a un ami à David qui est un ami à moi, ils sont dans la même cellule ensemble, on est très, très potes ensemble. Et ce pote-là voyait le potentiel de David en prison et lui a dit, le jour où tu sors, va voir les mecs du secteur A, Stoby, il est dans le cinéma, peut-être que tu peux faire quelque chose avec lui, il peut te donner un coup de main sur l'écriture. Et donc David, dès qu'il est sorti, il m'a contacté. Et il avait l'intention de faire une série sur sa vie, une série qui doit s'appeler pas écroué mais presque. Et vous pouvez baisser la musique d'ailleurs.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ben bah, attendez, on apprécie. En même temps, ça nous rappelle des souvenirs, Stoby. Bon, pardon, excusez-nous. Voilà. Hein.
Et donc David, merci beaucoup. Donc David m'a contacté pour que j'écrive avec lui cette série. Je devais écrire juste 2-3 scènes parce que je devais apparaître dans la série. Et finalement, on s'est retrouvés, on a écrit 2-3 épisodes en quelques heures. Alors tellement que lui et moi, ça matchait. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Une grande histoire d'amour, d'amitié.
Faites la mise en scène du spectacle, hein, c'est ça, Stoby.
Voilà. Et après, il m'a demandé de venir voir son spectacle. Il jouait au Sceaux Gymnase dans une petite salle au théâtre du gymnase, pas dans la même salle qu'il est maintenant. Il m'a dit viens voir mon spectacle. J'aimerais que tu fasses la mise en scène. Vu que toi et moi on s'entend bien dans l'écriture, tu peux compléter, tu peux apporter au spectacle. Je lui ai dit bon, laisse-moi d'abord voir ton spectacle et je te donne mes appréciations, mes critiques, ce que je trouve de bien, et après tu vois ce que t'en penses. Ouais. Et il a adoré tout ce que j'ai noté, tout ce que je lui ai dit qu'on pouvait apporter, et il m'a engagé. Donc c'est un honneur. Merci David Desclos.
Remerciement de Stoby Muggsy quand même. Et dis-moi Stoby, pendant que je te tiens, le retour en musique, c'est pour quand là? Parce que t'as un peu laissé de côté la musique là.
Oui, le retour en musique, je pense que ça se fera. Ça se fera le jour où moi et David, on mettra, comme en ce moment on écrit beaucoup de pièces ensemble, quand on adaptera nos pièces de théâtre au cinéma, je ferai la bande originale du film.
Il en est où le secteur A?
Théâtre et la musique.
Il en est où le secteur A?
Secteur A, tout le monde va bien, hein, tout le monde va bien, ouais.
Tout le monde va
bien, Arsenic, Passy, Negmaron, tout le monde va bien.
Bon, bah en tout cas, merci beaucoup Stoby pour le petit coucou à David aujourd'hui sur France Maghreb 2. Et puis on a hâte de te revoir en musique quand même, hein, parce que bah oui, tu nous as quand même fait bien rêver, hein. Même les plus anciens ici sur le plateau s'en souviennent de Stoby Muggsy, hein. Papa est un gangster et beaucoup cas, le ministère Hammer, c'est quand même notre grande époque.
Ah, vous êtes des connaisseurs.
Ça n'a rien à voir avec le rap d'aujourd'hui, Stoby. On peut le dire, non?
C'est autre chose.
Ouais,
autre chose.
C'est clair. Merci.
Je veux pas faire le vieux con qui.
Ouais, non, mais t'as le droit, t'as le droit ici, t'inquiète pas. Merci Stoby.
En tout cas, merci frère, à vous, à bientôt. Merci. Ministères amers, sortis tout droit d'une ambiance folle. Mais tôt le matin, il m'amène à l'école. Fatigué de ses soirées agitées, il me dit que c'est le studio, mais c'est vrai qu'il travaille dur, dur. Mais pas quand il a du rouge à lèvres sur les habits, ça c'est sûr. Et l'ascenseur, il fait des clins d'œil aux mamans accompagnant leurs enfants. Il était pas temps, pleure même d'un œil. De tous les côtés, il n'arrête pas de mater. Comme ça, il était recherché. Je ne suis jamais certain que c'est lui qui viendra me chercher. À 4h30, avec un style d'avanchi, une nouvelle petite amie. Mon papa c'est le plus fort. Quand il entend pas un pont, il s'évapore. Pas besoin de revolver.
Et le gangster, c'est David Desclos ou c'était votre papa?
Ben, les deux un peu. C'est vrai que mon papa a été un gangster aussi. Il a été enfermé au bagne de Tatiou, en face du village de Saint-Valougue, dans la Manche. Une île qui s'appelle l'île de Tatiou, qui était un ancien bagne pour enfants. Il a été enfermé 4 ans là-bas jusqu'à sa majorité. Et ensuite, il a connu la maison d'arrêt de Caen, de Fresnes. Et puis bon, après, il a essayé de se ranger, mais bon, il y a eu l'alcool, cette histoire d'alcool. Et puis maintenant, je rends quand même hommage à mon papa, parce que malgré cette histoire d'alcool, il m'a apporté plein de choses, une grande éducation.
C'est le message à retenir, en tout cas, du livre, hein, qui s'appelle Une histoire vraie, le spectacle au théâtre du gymnase tous les jeudis, vendredis et samedi à partir de 21h.
21h30. 21h30 au théâtre, voilà, du gymnase.
Et ça, tiens, s'appelle Écrouer de rire.
Je voulais lancer une petite invitation.
Bouge pas, bouge pas, reste avec nous. Je te laisse dans les mains d'Abdeslam Itach et d'Honor Excellent dans un instant.
D'accord.
On va voir si c'est aussi tout aussi excellent à suivre. Ne bougez pas, si je puis me permettre ce jeu de mots un peu pourrave. Mais bon, je me l'accorde. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, donc grand frère David Desclos est notre invité sur France Maghreb 2.
Vous êtes artisan, commerçant, chef d'entreprise, voyagiste, restaurateur, ce message vous concerne. Vite, profitez de nos offres publicitaires.
Avec nous, avec David Desclos, notre invité, le livre s'appelle Une histoire vraie chez Flammarion. Il est sorti récemment d'ailleurs, David.
Oui, il est sorti il y a un petit peu plus de 10 jours là.
Voilà, c'est ça. Et le spectacle, hein, qui lui maintenant tourne bien, ça se passe au théâtre du gymnase, tous les jeudis, vendredis et samedis, à partir de 21h30, ça s'appelle Écroué de rire, pour faire référence évidemment à son parcours en prison d'ancien cambrioleur, parce qu'il n'aime pas qu'on dise braqueur. Donc avec quand même cet épisode assez extraordinaire en 98, ce tunnel creusé avec l'aide d'amis pendant plusieurs jours pour essayer d'aller de rentrer dans cette banque. Vous y êtes parvenu, vous êtes fait un peu avoir quand même. Et ce transfert, c'est ça, où quand on vous rendiez en prison et vous avez réussi à vous évader lors du transfert.
Exactement.
Voilà. Et ça a duré un an, votre évasion.
Voilà, au bout d'un an, j'ai décidé de me rendre de moi-même, et voilà, je raconte tout ça dans le spectacle, comment et tout.
Il faut lire le livre pour avant d'aller au spectacle, ou l'inverse est aussi valable?
Ben, moi je pense, si moi je dirais, c'est bien de lire le livre avant, mais les deux se font. Par exemple, là, tout le week-end, j'ai joué jeudi, vendredi, samedi et dimanche à Arras. Et les gens ont vu le spectacle, ils n'avaient pas encore lu le livre. Et ben, j'avais des livres avec moi, ils les ont achetés aussi à la sortie du spectacle, ils en ont acheté. Donc les deux se font dans les deux sens, quoi. C'est au bon vouloir des auditeurs, quoi.
Alors justement, puisqu'on parle des auditeurs, tu leur proposes des invitations.
Oui.
Cher David, alors comment ça se passe?
Alors les invitations, c'est super simple. Donc comme tu l'as dit, c'est tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h30 au théâtre du gymnase, en face au Grand Rex. Et bien tous ceux qui m'envoient des messages en privé sur Facebook ou Instagram ou tous les réseaux, hein.
David Desclos.
David Desclos, voilà, David Desclos.
D-E-S-C-L-O-S.
D-E-S-C-L-O-S, David Desclos. Ils m'envoient des messages en privé. Et bien là, les 10 premiers, on leur met invitation de personnes pour le jour qu'ils veulent, jusqu'à fin décembre. C'est jusqu'à fin décembre, tous les jeudis, vendredis, samedis au théâtre du gymnase.
Donc allez-y, hein, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, David Desclos, vous lui envoyez un petit message pour dire salut David, on t'a écouté sur France Maghreb 2, c'était cool. Et tu leur offres donc une invitation pour deux personnes au théâtre du gymnase jeudi, vendredi, samedi. Abdeslam Itach, il a lu le livre?
Alors je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré. Ça m'a pris
ça prend, c'est vrai que ça prend.
Non, c'est j'ai vraiment pris plaisir à le lire. Alors ça n'empêche que j'ai des remarques à te faire, David, hein, sur le livre. Tout d'abord, nous sommes de la même génération. Ce que tu as vécu dans ton enfance, notamment au tonneau, et ensuite au 43, c'est ça,
Tonneauville.
Tonneauville, il faut expliquer pourquoi vous l'appeliez Tonneauville. En fait, c'était des tôles ondulées qui donnaient la forme de tonneau. Et donc,
On a souvent appelé ça les bidonvilles. Nous, à Caen, ils les ont appelés Tonneauville parce que c'est en forme de tonneau.
C'est ça. Et en fait, par la suite, lorsque vous êtes passé au logement social, c'était une promotion sociale. Pour le coup, c'était quelque chose de fantastique, avec des pièces partout, une salle de bain, des toilettes et autres. Et c'était le grand luxe. Et petit à petit, on voit le quartier se désagréger, parce que derrière, il n'y a pas de politique locale qui permet d'abord aux adultes de pouvoir travailler. Donc beaucoup se cachent dans l'alcool, et t'en parle bien, parce que d'abord t'en veux à l'État qui organise ce racket du tabac et de l'alcool, et qui entretient un petit peu cette situation. Et beaucoup de personnes dans ta famille sont justement dans un degré d'alcoolémie assez important, ce qui fait que tu ne bois pas. En tout cas, dans le livre, tu dis je ne touche pas à l'alcool, parce que t'as vu un petit peu les ravages qui ont été commis. Moi, alors, je comprends l'engrenage, je comprends les difficultés, les rencontres malheureuses à certains moments. Et d'ailleurs, à ce propos, tu rends hommage à plusieurs reprises à des personnes que tu connaissais et qui sont décédées. Et à plusieurs passages dans le livre où on tombe sur je veux rendre hommage à telle personne qui, lorsque j'ai quitté la prison, était décédée. Il y avait plusieurs cas comme ça. Donc, dans ta trajectoire, comme dans ma trajectoire, peut-être à un moment aussi, j'ai aussi perdu des amis en grandissant dans les quartiers. On a tous connu ça. Dieu Nord, je suppose aussi. Donc, on a laissé des gens derrière nous. On a continué notre vit bien gré mal gré, mais c'est, ça fait partie de notre passé, ça fait partie de notre vécu. Mais par la suite, moi, ce que je ne comprends pas, c'est alors cette envie de vouloir continuer un petit peu dans ces délits, il y a pas réellement de prise de conscience, ou en tout cas tu dis que certaines personnes ont eu le déclic, tu l'attends, mais en même temps on sent pas que tu veux le provoquer, ce déclic. Tu vis la chose, et notamment lorsque tu pars en Espagne avec tes amis, eh ben vous êtes en vacances, mais il n'empêche que pendant que tes copains sont à l'appartement, dans la maison qui avait été louée, tu vas faire les hôtels, tu montes au dernier étage, tu prends le pass, tu visites les chambres. Alors tu le dis bien, blond, yeux bleus, polo Lacoste en Bermuda, ça passe tout seul. Et pour rentrer, d'ailleurs, la parade, c'était, tu prenais deux serviettes à la main et avec un espagnol approximatif, tu disais, tenez, c'est les serviettes. Et quand il n'y avait personne, tu entrais et tu faisais ce qu'il y avait à faire. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, je me dis, non, mais là, il exagère, David. Mais quand est-ce qu'il va arrêter? Et ça continue, ça continue. Ensuite, il y a l'organisation du deal en prison. Franchement, c'est balèze quand même d'organiser un truc pareil. Je me dis, à quel moment il va s'arrêter?
Ouais,
à quel moment il prend conscience de ça, et à quel moment
il déclique. La question, elle est toute claire. À quel moment tu prends conscience que tout ce que tu es en train de faire, finalement, c'était peut-être quelque part écrit aussi. C'était peut-être la suite de ce que tu as vécu ou de ce que ton père a vécu. On dit souvent d'ailleurs qu'on reproduit souvent ce que les parents font. Et, étant jeune, je ne sais pas si c'est vrai pour toi, mais à quel moment est apparu ce déclic?
Ce déclic, il a vraiment apparu quand je me suis évadé, après avoir creusé le tunnel dans les égouts. Je me suis retrouvé en cavale, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de plein de choses. J'étais libre, mais avec cette épée d'Abonclès. J'étais sûr que, comme 2 et 2 font 4, qu'un jour ou l'autre, ils allaient m'attraper.
Que tu ferais pas du zoo, comme ça.
Voilà. Et là, je voyais tout autour de moi les gens qui travaillaient, qui avaient leur petite vie. Et j'étais dans le sud de la France, ou j'étais dans des villes. Et j'étais hébergé chez des gens qui m'ont caché, et qui eux travaillaient. Et je les voyais se lever le matin, partir au travail, les enfants à l'école. Et là, je regardais et je me disais, mais elle est là, la vie. C'est ça, apporter la sécurité à sa famille. Je voyais le monsieur qui partait travailler, sa femme aussi, ses enfants à l'école. Et lui, il construisait sur du dur.
Mais t'avais l'exemple de ta maman pour ça?
Non, parce que, en fait, ma maman, sans lui faire aucun reproche, parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu dans ma maman, il faut lire le livre pour comprendre le parcours de ma mère. Elle a essayé, mais il y avait l'alcool, il n'y avait pas de sous, il n'y avait rien. Il y avait.
Oui, mais elle a porté à bout de bras quand même, la famille.
Oui, elle a porté, nous, c'est pour ça que je le dis dans le spectacle, et j'essaye de le dire dans le livre. Pour avoir le déclic, faut sortir du quartier.
Ouais.
Et moi, tout pendant que j'étais dans le quartier, on pouvait rien. J'avais que l'exemple devant moi, c'était tous les grands qui volaient, qui dealaient. On pensait être bon qu'à ça. On pensait vraiment être bon qu'à ça. Et c'est que grâce à cette cavale, dans mon malheur, j'ai eu du bonheur de sortir du quartier, de partir loin et de voir autre chose que la vie du quartier, de voir. Et d'être dans cette situation où j'allais me retrouver inévitablement en prison. Et c'est là que je me suis dit, et je me suis dit aussi, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, je suis pas si con que ça. Si je mets cette intelligence, ce culot, ce talent dans l'honnêteté, je peux peut-être tout déchirer. Et donc voilà, c'est le déclic, c'est un ensemble de plein de choses. C'est un ensemble, ce que j'essaye de dire dans le livre. Tu as vu, j'explique ce que c'est que le déclic.
Ouais.
Et j'essaie de donner une grosse explication sur le déclic. Je sais pas si tu as vu.
Mais je suis resté quand même sur ma fin.
Sûr.
À la fin, sans jeu de mots.
Dis-moi.
On voit bien, c'est l'escalade, tu te retrouves là-bas, tu rends même service à un gars qui est de la région parisienne, tu lui files une savonnette de shit, et là, il y a une amitié qui se construit. Et je me dis, mais mince, il va repartir encore derrière. Et le livre s'arrête, je vais pas tout déflorer,
non.
Mais il s'arrête subitement, et ensuite, il y a un discours auquel moi, je voudrais bien, et ça serait une très bonne idée d'ailleurs.
Pour aller voir le spectacle. Est-ce que dans le spectacle il y a une suite au livre?
En fait, le spectacle est en trois parties.
Ouais.
Et bien sûr que pour moi c'est inévitable. Pour l'instant, la suite du livre c'est le spectacle. Quand tu vas voir, là t'as pas encore vu le spectacle. Quand tu vas voir le spectacle, je pense que tu vas tout comprendre.
D'accord. Parce que c'est par accord entre le moment où justement t'es dans ces méfaits et subitement t'es dans les messages super positifs auxquels j'adhère complètement. Mais je me dis, mince, attends, il y a une case, il y a un truc. Ou alors le message, il est juste là pour faire fun, ou alors il s'est passé un truc. Et en fait, par la suite, en faisant des recherches, on découvre ce cambriolage raté, donc à Caen, et là, on commence à comprendre, on se dit, ah, quand même, il y a une histoire derrière. Enfin, il y a une autre histoire derrière. Donc, écoute, ouais, j'ai hâte d'aller voir le spectacle et d'essayer de comprendre et de remplir cette partie du puzzle qui manque.
Voilà, et sans.
Bah oui, c'est pas exprès en même temps, il y a un peu de marketing, non ?
Non, mais c'est.
Non, c'est pas. Je vais expliquer, je vais donner une explication franche. C'est que avant d'écrire le livre, j'ai écrit le spectacle. Et pourquoi j'ai écrit le spectacle ? C'est parce que quand j'ai eu l'idée de faire tout ça, tout le monde me disait, David, t'as une vie, c'est un parcours énorme ce que t'as, il faut que t'écrives un livre. Tout le monde me disait, écris un livre. Mais je voulais pas être cet énième bandit qui écrit un livre et que, voilà, que les gens disent, ouais, c'est encore un bandit qui écrit un livre, on en a marre.
Donc,
je voulais arriver d'une façon originale. Et c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure, dans les promenades, je faisais tellement rire et tout, je me suis dit, la façon originale, elle est là, c'est d'arriver avec ce spectacle et de à la fois faire rire, mais envoyer des messages. Et donc, c'est là que j'ai écrit le spectacle. Et donc, le spectacle, eh ben, inévitablement, il est là et on le joue dans les écoles, les collèges, les lycées, les prisons, les théâtres de France. Voilà, on a un super retour, suivi de débats et tout et tout. Et donc, quand ensuite le temps du livre est arrivé, où là tout le monde m'a dit, ben, là ça y est David, il faut écrire, tu t'en dis pas assez dans le spectacle, il faut le livre. Donc là, j'ai envoyé le livre, mais j'ai volontairement arrêté le livre en 1980, début 95, et parce que je sais que le spectacle attaque à cette période-là. Et les gens qui voient le spectacle, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc voilà, et donc j'allais pas non plus tuer le spectacle, parce que le spectacle, sans prétention aucune, il a une importance énorme.
L'un va avec l'autre.
Voilà, il est en train de se faire conventionner par le ministère de la Justice et l'Éducation nationale. Tout le monde dit que c'est une baguette magique, que les éducateurs, le retour qu'on a, ils disent, mais comment vous faites pour les jeunes sont différents après avoir vu le spectacle suivi du débat. Donc je voulais pas tuer le spectacle en ayant tout dit dans le livre. Donc alors, là maintenant le cheminement, c'est que c'est vrai, les gens qui vont lire le livre, eh bien ils vont voir le spectacle, mais quand ils vont voir le spectacle, à la fin du spectacle, ils vont se dire, David, j'espère, je veux pas m'enflammer ou quoi, mais les gens vont se dire, ah là on a tout compris.
Ouais. David Desclos, deux questions avant que je te laisse la parole à Dionor, qui n'a pas lu le livre ni vu le spectacle, donc qui a simplement été un auditeur pour le coup de cette rencontre aujourd'hui et qui pourra peut-être réagir. Deux questions, parle-nous de ta rencontre avec Nora.
Alors, bah Nora, c'est ma femme.
La mère de tes enfants.
La mère de mes enfants, c'est tout. Voilà, on s'est rencontrés à l'école primaire du quartier, justement. Ouais.
C'est un amour secret.
C'est un amour secret. Au début, je ne le disais pas, je ne voulais pas en parler parce que voilà. Je l'ai toujours eu dans les yeux. Bon, vers la vingtaine, j'ai commencé à la fréquenter. Moi, je connaissais son frère parce qu'on faisait les casses ensemble. Son frère, il faisait partie de tout le gang et tout. Et en cachette, j'ai vu sa sœur. Et puis, ben voilà, dès que j'ai réussi.
Mal barré.
C'était mal barré.
Elle était plutôt élève studieuse.
Exactement.
Toi, pas du tout. Enfin, c'est pas un jugement de valeur.
Non, pas du tout.
Et donc, t'avais cette trajectoire et tu voyais qu'il commençait à y avoir une divergence. Elle qui était dans les études, qui était sérieuse et autres. Et t'as une admiration secrète pour elle. Ouais. Tu la vois à la fenêtre pendant que t'attends son frère. Et là, est-ce que tu dis à un moment, c'est mort? C'est mort parce que il y a deux univers. Elle, c'est une fille posée, intelligente et rangée. Et moi, je suis dans les délires et ça marche pas du tout.
Ah bah oui, puis surtout qu'elle est intelligente. Puis je pensais que jamais j'aurais pu être avec Nora parce que, comme tu viens de le dire, et surtout quand j'ai réussi à avoir un premier rendez-vous avec elle. J'ai senti qu'elle était très intelligente et qu'elle m'a fait comprendre intelligemment. Elle m'a dit, mais David, tu te rends pas compte de la réputation. Moi, je veux pas d'un père où mes enfants vont voir le père tout le temps en prison. Voilà, je veux construire ce. Elle a fait partie de tout ce déclic, le cheminement du déclic que j'ai eu. C'est pour ça que dans le livre, j'explique tout le déclic. C'est comme une mayonnaise, le déclic. Il faut
elle y
plein
est pour quelque chose, Nora.
Elle y est grave pour quelque chose. Elle m'a fait part de son intelligence. Enfin voilà, j'ai pris de son intelligence. Et puis, le truc de dingue, c'est que je l'ai quand même rendue malheureuse parce que elle est amoureuse et elle m'a attendu une première fois 5 ans plein et c'est pas rien de le dire, c'est pas une petite peine. Ensuite 2 ans et une dernière fois 1 an, la dernière il y a 6 ans à Fresnes. Et donc, bon, maintenant, on a trois enfants ensemble, et elle est heureuse de ce qu'on est en train de faire. Elle vient avec nous dans les prisons débattre et tout ça. Et elle a
des enfants qui ont été conçus en prison, alors ?
Non, c'est entre mes peines, mes cavales. Par exemple, quand j'ai fait 5 ans, à ma sortie de mes 5 ans, j'ai eu ma fille qui a 14 ans. Ouais. Ensuite, quand je me suis révadé, j'ai fait 4 ans de cavale. Pendant mes 4 ans de cavale, j'ai eu mes deux fils. Et ensuite, j'ai refait un an avec j'avais mes trois enfants pendant que moi j'étais en prison. Et là, Nora, elle a beaucoup.
L'intimité en prison.
C'est ça, il y en a pas, et à part là maintenant ils ont mis des parloirs intimes, ils sont en train de s'installer, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est atroce, c'est pour ça que je vous dis, ce spectacle il est pour les victimes, mais il y a une grande partie aussi pour toutes ces familles, ces femmes qui attendent leur hommage, qui souffrent et tout ça.
Qui est David Lupin?
Bah, David Lupin, c'était le nom que je me suis donné quand j'étais en cavale pendant les 4 ans, que je montais sur scène. Je montais sur scène, comme j'étais recherché, bah, je disais, voilà, je m'appelais.
Ce mec montait sur scène alors qu'il était en cavale, Dionor. Hein, je t'explique.
Ouais, il est fort.
Il est fort,
Il est fort, mais.
Dionor.
Oui, déjà, ce que je voudrais dire, David, tout à l'heure, tu disais que. Je suis toi naturellement parce que c'est des. Bon, il y a une certaine proximité dans nos échanges et. Je pense que ta démarche est vraiment sincère. Tu parlais de l'intelligence, je commencerai par ça. Tu parlais de l'intelligence de Nora. Mais je pense que tu es hyper intelligent aussi, il faut le dire. Parce que quand on regarde le parcours, et puis au-delà d'avoir creusé un tunnel, tout, mais il faut avoir de la détermination, il faut avoir de la motivation, il faut avoir une stratégie.
C'est les qualités d'un entrepreneur.
Voilà, ouais. Tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un qui entreprend les choses, qui a une intelligence de faire. Après maintenant, comment cette intelligence a pu être mal orientée, et c'est là que ce sujet est super important, parce que moi, je crois aux politiques de réinsertion, mais réelles, mais pas on met les gens au trou et puis on les laisse pourrir et on fait rien. On met vraiment le paquet pour que les gens, une fois qu'ils sortent, mais une fois qu'ils sont rentrés, ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, notamment la question des victimes, mais et puis donner cette possibilité à ces personnes de se reconstruire, parce qu'on a tous cette intelligence de dire, finalement, on n'est pas con. Mmh. Si on est là, on n'est pas heureux en prison, en surcarcération, en surpopulation carcérale, avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Il y a un autre aspect qui est intéressant, et c'est la question de la reproduction sociale. On dit souvent que le fils ouvrier devient ouvrier, le fils de médecin de médecin. Ben oui, finalement, le fils de délinquant, on peut dire de bandit ou de quelqu'un qui a mis des méfaits. Et cette reproduction, elle est aussi
sociale. Le papa, c'est souvent des bagarres qui l'a conduit en prison.
Oui, entre autres, mais il vit dans un environnement où on t'a pas donné la possibilité de développer cette intelligence pour des choses plutôt positives qui t'auraient pu te permettre d'entreprendre autrement.
Voilà. Et ça, je dis tout à l'heure, dans les quartiers, moi, c'est pas à moi de dire si je suis intelligent ou pas. Ça,
mais
je le dis moi tout.
Par contre, on le dit.
Mais ce que je dis, dans les quartiers.
Fais des spectacles en cavale, faut faire le film, là.
Je l'ai dit tout à l'heure, je disais, dans les quartiers, il y a vraiment du culot, de l'intelligence, du talent et du potentiel énorme. Et quand les jeunes qui sont là, qui sont sur le mauvais chemin, mettront ce culot, cette intelligence, ce talent, ce potentiel dans la vie honnête, dans la voie honnête, ils vont faire remonter le PIB du pays.
À quand le film, David Duclos? À quand le film?
Excuse-moi, t'as coupé.
Oui.
D'avoir coupé.
À quand le film, pardon?
On en pour parler, parce qu'à Avignon, on a.
Franchement, Dionor vient de dire un film, mais c'est vrai qu'alors là, ce film serait magnifique.
Et du coup, l'autre aspect, je pense qu'il faut faire le film. D'ailleurs, je t'ai envoyé un petit message sur. Donc j'irai bientôt voir le spectacle gratuitement.
T'as pas besoin d'envoyer des messages.
Du coup, l'autre aspect que je trouve intéressant, c'est comment justement peut-on prévenir les carrières de délinquants, de voyous. Et souvent, pour avoir été enseignant, moi aujourd'hui, je suis attristé de voir, certains de mes élèves qu'on aurait pu rattraper à un moment donné si on avait vraiment mis les moyens nécessaires. En gros, si on les avait mis sur les rails, parce qu'on les voit dérailler finalement, et le système dans lequel on vit, mais ne donne pas les moyens pour remettre les gens sur les rails et les aider. On voit très bien la chute et on laisse les gens chuter. Et aujourd'hui, je trouve que, à travers le travail que tu fais en termes de prévention, il faut le dire, tu fais de la prévention, au-delà du spectacle, du livre, mais heureusement, que j'espère que ça te permet de t'en sortir dignement, de pouvoir vivre de ça. Mais aujourd'hui, tu es un éducateur, à travers ton histoire, tu permets à des personnes de ne pas commettre justement ces méfaits, ou des personnes qui sont dans cette situation de dire finalement, je peux m'en sortir, je peux réussir et je peux donner un autre sens à ma vie. Et la dernière chose que je voudrais dire avant de poser ma question, c'est que...
C'est pire que chez Ruquier ici. Hein.
mais c'est le grand forum qui permet ça.
Oui, absolument.
Ici, on a la liberté de parler et d'aller au fond de notre pensée. Donc, ce que je voulais dire, c'est au-delà du parcours, c'est avant tout des rencontres. Que ça soit Nora, que ça soit le Stummy Bugsy, que ça soit les autres personnes que tu rencontres. À chaque fois, c'est une histoire de rencontre.
Exactement.
Et tu as su saisir justement cette opportunité de par ton intelligence, justement, parce que tu as cette intelligence sociale de dire lui, ça me permet aussi. De, voilà. Et lui, il, tout à l'heure, on l'écoutait à la radio.
Il veut braquer une ville, tu vois.
Il était super content de voir. Voilà, on sent qu'il y a une complicité. Et je pense que tu es quelqu'un de très humain. Et voilà, du coup, la question,
oui,
quand même,
la
c'est
question,
quand même, au-delà de...
Attends, juste Dionor, pardon, juste Dionor, deux secondes pour avant que tu poses ta question. Juste Dionor, excellent, et candidat à la mairie de Villetaneuse, donc quelque part, il a besoin de ton expérience parce qu'il veut aussi lui braquer une ville.
Sans haine
et
violence.
Mais, sans arme et violence, hein, évidemment.
Mais je lui souhaite parce qu'il parle bien.
Ouais. Oui, alors, ta question, Dionor.
On a surtout beaucoup de projets, notamment pour nos populations. Donc, la question, c'est, il y a Nora, bien sûr, qui t'a permis de t'en sortir, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments, notamment de foi, de conscience philosophique, religieuse, qui t'ont permis aussi de faire cette rétrospection et de dire finalement, ouais, la vie, c'est pas que braquer, être en cavale, faire des spectacles en cavale aussi, c'est marrant, mais la vie a peut-être un autre sens et peut-être que j'ai autre chose à faire, à aussi me apporter aux autres, parce que finalement, ce que tu fais, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour les autres, au-delà de Nora et tes enfants.
David Desclos.
Oui, ben ouais, c'est une très très bonne question et c'est un sujet qu'il fallait aborder, parce que c'est vrai que j'ai eu ce déclic, Nora y est pour beaucoup aussi. Mais j'ai la foi et j'ai ressenti quelque chose pendant cette cavale qui est inexplicable. C'est comme moi je l'image de cette façon en prenant l'image des petites tortues qui naissent et qui sont attirées par la mer. Ouais. J'ai eu comme une révélation. Pour moi, c'était une évidence. Voilà, ouais. Et qui sont, voilà, faut faire attention quand même. Mais voilà, pour moi, c'était une évidence. C'était inexplicable. Ouais. Il fallait que je fasse ça parce que je ressentais que mon expérience, il fallait que j'aille la partager. Il fallait que je fasse et que ce qu'on fait maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je vais répondre dans tout ce que tu viens de dire. Par exemple, il n'y a pas de hasard. Il y a que des rencontres. Ça a entretenu ma foi. Moi qui suis né dans un quartier où on m'a pas élevé sous aucune religion ni rien, j'ai eu les choses de la vie m'ont fait comprendre qu'il y a quelque chose. Donc chacun le traduit comme il veut. Voilà, pour moi il y a quelque chose, et donc c'était inexpérimenté. Il fallait faire tout ça. Et aujourd'hui, quand je vois que je vais dans les écoles, dans les collèges, les lycées, les protections judiciaires de la jeunesse, dans les prisons, et que je délivre ces messages, et que les messages font mouche, et que le retour qu'on a sur tout
touche, ça
voilà,
change.
Et bien moi, je tous les soirs, voilà, dans mon petit coin, moi, c'est mon petit coin privé, ben je remercie le ciel et j'ai cette foi qui est là en moi et je me dis que c'est pas rien ce qui est, et comme voilà, il fallait le dire, enfin voilà, il y a cette foi.
Oui.
Et au delà, alors on a peut-être plus le temps.
Pas beaucoup, vas-y, je t'en prie.
30 secondes. Donc il y a Nora, il y a la foi, il y a tout ça. Et puis aussi, et ça je le dis à tous les jeunes qui pourraient nous entendre, j'ai eu aussi ce déclic en plein tribunal quand je me suis rendu de moi-même et qu'ils m'ont mis 7 ans ferme, qui m'ont mis plus 1 an pour les
vagues,
plus 18 mois de révocation, enfin une grosse peine de dingue. Et là, j'ai regardé tout ça comme si c'était une pièce de théâtre. Je me suis dit, on aurait dit une pièce de théâtre, chacun jouait son rôle, le juge, le procureur, l'assistant, toute la salle, tout ce rôle, et moi... Et je faisais partie, mais comparé à eux, moi, je ne rentrais pas chez moi. Je rentrais en prison avec une grosse peine de dingue. Et je me suis dit, là, au fond, moi, je me suis dit, il ne faut plus jamais ça. Je lance ce message à tous ces jeunes. Arrêtons de donner notre vie à cette justice. On a mieux à faire. Mettons notre. Et c'est là que je reviens, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mettons notre culot, notre intelligence, notre talent dans l'honnêteté. Parce que donner notre vie à la justice, on se fait avoir, pour rester poli.
Dernière question, avoir. David Desclos. Est-ce qu'il est plus facile de préparer un casse ou de préparer un spectacle?
Plus facile de préparer un spectacle. C'est pour ça que je dis, quand vous comprendrez qu'il est plus facile de faire 1 euro net que 2 euros malhonnête, vous auriez tout compris. On dit l'argent facile quand on fait un cambriolage, mais en fait c'est très très difficile. Et surtout quand on se casse la gueule, comparé à une pièce de théâtre, on retravaille et on la refait le lendemain. On se refait
vite, quoi.
Voilà, ouais. À partir du moment où on garde la santé et la liberté, on peut tout faire. Alors que dans un casse, si on se casse la gueule, on met 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de revenir. Enfin voilà, c'est. Et donc dans la vie, il faut faire attention à sa santé et à sa liberté. Et à partir de là, tout est un peu plus facile.
Histoire vraie, c'est le titre du livre chez Flammarion, absolument à lire, c'est poignant, c'est envoûtant, c'est à lire en tout cas le parcours atypique de David Desclos, notre invité. Le spectacle, on n'en oublie pas évidemment, tous les jeudis, vendredis et samedis au théâtre du Gymnase, à partir de 21h30, le théâtre s'appelle Écroué de rire. Et David vous propose des invitations pour deux personnes. Vous lui envoyez des messages sur ses réseaux Facebook, Instagram, Twitter. David Desclos, merci beaucoup d'être venu ici.
Merci beaucoup à vous tous.
Ce fut une belle rencontre. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé mes camarades, mais beaucoup apprécié. Et on salue encore une fois ce Tommy Bugsy qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Cette belle rencontre qui aujourd'hui se met au service de la prévention finalement. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup David Desclos d'être venu sur France Maghreb 2.
Merci à vous tous.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble, toute génération.